livre est une rediffusion.
RFI, grand reportage.
Quand on vient ici, c'est toute l'histoire qui remonte. Napoléon y est venu et même s'il n'est plus là, il vit et vivra toujours chez les gens ici, dans leur mémoire.
Le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte meurt sur l'île de Sainte-Hélène. Mais une autre île porte elle aussi une trace profonde de l'empereur, l'île d'Elbe, en Italie, située au large des côtes toscanes, non loin de la Corse natale de Napoléon. Vaincu par la coalition des Prussiens, des Russes et des Autrichiens, celui-ci se voit offrir Elbe comme lieu d'exil lors du traité de Fontainebleau. L'empereur vaincu devient dès lors le souverain de ce petit morceau de terre pendant 300 jours jusqu'à sa fuite. À l'île d'Elbe, l'héritage toujours vivant de Napoléon, c'est un grand reportage d'Éric Sénanc.
Dominant les vagues de la Méditerranée, un nid d'aigle veille sur Porto Ferraio, le chef-lieu de l'île d'Elbe. Nous sommes à la Palazzina dei Mulini, l'une des deux résidences où vécut Napoléon, sur cette île située entre Corse et Toscane. Une jolie bâtisse aux murs jaunes, construite en 1724 et que l'empereur déchu fit agrandir.
Buongiorno, benvenuti alla Villa dei Mulini.
Francesco, le gardien des lieux, nous ouvre la propriété. Quelques volées de marche plus tard, nous voici dans le salon, la pièce principale qu'il a fait construire. D'ici, on embrasse la vue sur la mer, la vue est à couper le souffle. La Palazzina dei Mulini fut la demeure parfaite pour Napoléon, pourtant surveillée de très près par les Anglais.
Il a choisi cette résidence parce que d'ici, il pouvait voir tous les navires qui partaient et qui arrivaient. Et là, si l'on regarde de l'autre côté,
si vede anche che domina tutto il Porto Ferraio.
La vue domine Porto Ferraio. Il avait peut-être déjà en tête l'idée de s'échapper.
La résidence reste une bâtisse à taille humaine, presque intimiste, où se concentrent les objets symboliques du passé impérial, comme ce lit de camp pliable sur lequel l'empereur se reposait durant ses batailles, ou encore des livres où l'on aperçoit la lettre N, caractéristique, gravée sur la tranche à la feuille d'or. Sur les murs de la résidence, des tableaux ou des gravures à la gloire de celui qui régna sur l'Europe entière avant son exil à Elbe, comme cette reproduction d'un Napoléon couronne de laurier sur la tête, sortant d'un tombeau.
On le voit sortir de sa tombe. Il est comme Jésus qui ressuscite. Napoléon ne meurt jamais. C'est son mythe.
Francesco nous emmène à l'extérieur du bâtiment, dans l'ancien jardin à la française, où trône une statue de Minerve. Un peu plus loin, trois marches en marbre conduisent à un emblème qui ne trompe pas, un aigle coiffé d'une couronne impériale et sculpté au-dessus d'une légion d'honneur. Pour Bonaparte, les 300 jours d'exil à Elbe sont loin de se résumer à cette prison dorée. Souverain prolifique, Napoléon régna en effet sur ce confetti en le transformant en profondeur. Deux siècles plus tard, les Elbois ont un drapeau, des routes, des écoles, un code civil, une agriculture florissante, autant d'héritages napoléoniens. L'historienne Gloria Peria dirige les archives historiques de l'île d'Elbe. Nous la retrouvons sur le port. Elle nous rappelle combien, même avant l'arrivée de Bonaparte, l'île avait déjà subi des transformations qui portaient la patte de l'empereur. En effet, dès 1802, Elbe est intégrée à la France métropolitaine lors du traité d'Amiens et l'évacuation des Anglais.
Napoléon, bien sûr, dès 1802, comme premier consul, puis comme empereur, s'est occupé d'Elbe. Il a envoyé sur l'île des hommes de grande stature culturelle et intellectuelle, comme par exemple Pierre-Joseph Brion ou Lelièvre. Ils sont arrivés sur l'île comme gouverneurs généraux et ils y ont fait appliquer toutes les dispositions que Napoléon avait devinées ou choisies pour l'île.
Intuito o scelto per l'isola.
Dans ses trésors, Gloria Peria conserve de nombreux manuscrits, tout un ensemble de documents de cette mémoire napoléonienne, des codes, des décrets qui témoignent de cette nouvelle administration qui se met en place à Elbe, comme dans le reste de la France métropolitaine. On y trouve aussi le passeport que Madame Mère, la mère de l'empereur, obtint pour aller rendre visite à son fils en août 1814, mais aussi cette archive qui montre combien l'empreinte de Napoléon fut importante à Elbe.
Ce document est un acte de divorce. On peut lire « Acte de divorce de Raffaelli Sebastiano et de Mocchi Artemisia ». Il date de 1806. C'est l'unique acte de divorce que j'ai trouvé dans nos archives. Mais il est très significatif, car en Italie, on parlera désormais de divorce pendant presque plus d'un siècle.
Avant la pandémie, Gloria a organisé de nombreuses expositions pour les curieux, des élèves surtout, pour faire connaître son Napoléon à Elbe, un homme qui ne fut pas qu'un assoiffé de pouvoir ou un chef de guerre prêt à mettre l'Europe à ses pieds.
J'ai voulu montrer aux étudiants qui viennent aux archives un aspect de Napoléon qu'il aurait voulu que l'on retienne de lui, à savoir un côté humain, son aspect moins militariste. Et j'ai commencé une exposition en exposant le code civil, le code Napoléon, que nous avons reçu en 1804, quand Napoléon l'a édicté, écrit en Italie, et en français. Et je l'ai exposé parce que Napoléon, depuis Sainte-Hélène, avait dit clairement qu'il voulait que l'on se souvienne de lui pour cela, plus que pour les batailles et les guerres qu'il avait menées.
Pour suivre les traces de ce Napoléon intime et plus méconnu, il faut se rendre à Poggio, un village situé à l'autre bout de l'île, à flanc de montagne. Paolo Ferruzzi nous accueille dans la Casetta Drouot, la petite maison Drouot, construite au XVIIIe siècle et qui porte le nom d'un des généraux d'Empire. Ancien professeur aux Beaux-Arts et architecte, Paolo a restauré la demeure avec sa femme pour en faire un petit musée napoléonien qui est aujourd'hui sa propriété. Natif de Poggio, Paolo a toujours vécu avec le souvenir de l'empereur, très fortement attaché au village.
Il ricordo che c'è anche oggi di Napoleone non è come una persona lontana.
Le souvenir que l'on a encore aujourd'hui de Napoléon n'est pas celui d'une personne lointaine comme pourrait l'être un empereur ou un roi. Non. Ici, on parle de Napoléon comme quelqu'un de la famille, comme s'il avait toujours vécu ici. Et d'ailleurs, beaucoup pensent qu'il aurait mieux dû rester à Elbe plutôt que d'aller se battre à Waterloo. Et il fut bien accueilli ici, même si, comme tous les insulaires, les Elbois nourrissaient au début un peu de défiance avec les étrangers. Mais avec Napoléon, ils comprirent qu'ils reçurent beaucoup plus de lui que l'inverse.
Tendono a essere diffidenti con chi viene da fuori. Però, ecco, con Napoleone capirono che Napoleone stava dando di più di quello che loro davano a lui.
Paolo Ferruzzi n'est pas qu'un passionné, c'est un véritable amoureux. La Casetta Drouot regorge d'objets napoléoniens qu'il a patiemment rassemblés ces dernières années. Des livres, des sculptures, des gravures, des meubles de style empire bien sûr. Dans sa précieuse collection, un livre ouvert datant de 1808, une description de l'île d'Elbe en français.
Voyage à l'île d'Elbe. Vue générale sur l'île d'Elbe, de toutes les îles qui peuplent la mer Tyrrhénienne, si célèbre dans l'histoire des premières nations de l'Italie, il n'en est pas de plus intéressante et de moins connue que l'île d'Elbe.
Posé sur une table, on peut voir également un autre petit volume à la brochure de cuir dont Paolo nous décrit l'histoire avec fierté.
Ça, c'est un livre que Napoléon a eu dans sa poche. Napoléon arrive à Poggio, il est accueilli par la population, acclamé par des cris de joie. Les anciens du village avaient choisi la plus jolie fille du village pour qu'elle lui offre un bouquet de fleurs. Napoléon en fut très touché. Il sortit le livre de sa poche, car il n'avait rien d'autre, il signa une dédicace et l'offrit à la jeune fille. Après plusieurs générations, le livre a été récupéré par une vieille femme. Et dans son testament, elle a écrit « Je lègue ce livre à Paolo car il a toujours été gentil avec moi. C'est comme ça qu'il est ici aujourd'hui. »
Di discendenza in discendenza è arrivato a una vecchia signora. Nel testamento ha detto « Lascio questo libro a Paolo » e io mi sono trovato questo libro.
D'où vient cet attachement des Elbois envers l'empereur qui n'a pourtant séjourné ici que 300 jours, de son génie visionnaire et modernisateur selon Paolo.
Diciamoci la verità, quando lui venne a l'Elba, l'Elba non era nulla.
Soyons honnêtes, quand il est arrivé à Elbe, il n'y avait presque rien. En plus, l'île était divisée en plusieurs états. Porto Ferraio était contrôlé par les Français, Porto Azzurro était sous domination espagnole et le reste de l'île était administré par les princes de Piombino. Bien sûr, personne ne se mettait d'accord. Napoléon, lui, a tout unifié. Et puis, il a créé une chose importante, les cimetières, pour des raisons d'hygiène, car avant, on enterrait les morts dans les églises. Il a fait les routes. Toutes les routes que vous avez parcourues aujourd'hui, c'est grâce à Napoléon. Mais il l'a fait avec intelligence. Il n'a pas planté des pins au bord des routes, mais des mûriers. Cela faisait de l'ombre et en plus produisait du verre à soie.
Parce que le gelso faceva ombra, ma faceva anche il baco da seta.
Sur la même commune de Poggio, non loin de la maison de Paolo, notre itinéraire napoléonien nous mène sur un site très symbolique, la source Napoléon. Une eau pure qui jaillit de la montagne et où l'empereur venait se désaltérer et même y trouver des vertus curatives. Depuis cette époque, la source est presque un site miraculeux où l'on vient se purifier. Par le passé, des personnalités séjournant à Elbe, comme Winston Churchill ou Aristote Onassis, s'y rendaient verre à la main dans une sorte de pèlerinage. Aujourd'hui, une plaque de marbre indique cette source Napoléon. Ici, deux siècles après l'empereur, de nombreux Elbois font la queue pour remplir leurs bouteilles, comme Giuseppe et Chira, venus de la ville voisine.
J'ai rempli 10 bouteilles. C'est une eau délicieuse, une eau merveilleuse. L'eau de Napoléon est l'une des meilleures eaux d'Europe. Moi, je ne bois que celle-ci. Elle est pure, on la prend directement de la source et elle ne passe pas par je ne sais quel réservoir.
Passa dal serbatoio, vieni dritta lì giù.
Quand on vient ici, c'est toute l'histoire qui remonte. Napoléon y est venu et même s'il n'est plus là, il vit et vivra toujours chez les gens ici, dans leur mémoire.
Sur l'île, Napoléon est partout, sur les bouteilles de bière, les enseignes de restaurants. Son ombre en bicorne est dessinée au pochoir sur certains murs et l'empereur et sa sœur Pauline, qui vint elle aussi à Elbe, ont même donné naissance à des parfums. En 2014, lors du bicentenaire de l'arrivée de l'empereur à Elbe, des milliers de figurants en costume ont rejoué le moment où il pose le pied sur l'île, acclamé par les habitants. Un moment qui a marqué la vie de l'île et de Porto Ferraio, à commencer par le maire de la ville, Angelo Zini. Il nous reçoit dans la salle du conseil municipal sous un grand portrait de l'empereur.
Una sala storica, alle pareti di questa sala sono appesi due quadri.
C'est une salle historique où sont accrochés deux tableaux qui rappellent notre histoire. Ici on voit Côme de Médicis, celui qui a fondé cette ville qu'on appelait Cosmopolis dans l'Antiquité. Et puis ici nous avons Napoléon Bonaparte, qui est l'autre grand personnage de notre histoire.
Grande personaggio della nostra storia.
Pour Angelo Zini, Napoléon n'est pas suffisamment mis en valeur dans le patrimoine d'Elbe, car ses habitants ont encore un rapport ambigu avec celui qui fut leur empereur éphémère.
Gli Elbani hanno un rapporto di amore e di odio con Napoléon, nel senso che.
Les Albains ont un rapport d'amour-haine avec Napoléon. Ils reconnaissent à la fois qu'ils ont eu l'honneur d'héberger un grand personnage de l'histoire, mais dans le même temps, ils gardent de la méfiance. Il faut pourtant reconnaître qu'il a été un grand moyen de faire de la publicité pour notre île. Selon moi, l'un des défis les plus importants est de rendre la figure de Napoléon encore plus populaire auprès des habitants de l'île, en particulier auprès des plus jeunes. Ceux qui vont à l'école.
Alle generazioni grandi, ma anche alle generazioni più piccole, coloro che vanno a scuola, ecco.
Dans les rues de Portoferraio, non loin d'une ancre qui rappelle le lieu d'accostage de l'empereur le 4 mai 1814, les commerçants semblent à l'unisson du maire, surtout en ces temps difficiles de crise sanitaire où manque cruellement la manne touristique. Pour eux, aucun doute, Napoléon est un trésor à faire fructifier. Salvatore est napolitain mais vit à Elbe depuis plus de 30 ans. Sur le mur de sa trattoria, situé dans le centre de Portoferraio, il a en 2014 fixé une plaque de fer représentant ce N symbolique de l'illustre hôte de l'île.
C'est un symbole, une figure indispensable à Elbe. Plus que tout, l'île est connue pour Napoléon Bonaparte. Tout le reste est venu après. Le tourisme balnéaire, les plages, les loisirs. Selon moi, il faudrait mettre plus en avant cette mémoire. Peu m'importe que certains disent qu'il fut un dictateur. Il a laissé de belles traces sur l'île.
Un constat partagé par Alessandro qui tient un bar dans la rue voisine et qui regrette que les investissements soient encore trop faibles pour mieux promouvoir ce patrimoine.
Je suis convaincu que l'on devrait plus faire au niveau touristique, améliorer la signalétique, mettre des magasins de souvenirs de Napoléon le long des parcours vers les sites à visiter, des sites qui ne sont pas très accessibles pour les personnes âgées. Oui, pour moi, il faut en faire plus. C'est un de nos points forts qu'on n'a jamais exploité comme on aurait dû.
C'est un point de force que nous n'avons jamais exploité comme, à mon avis, nous aurions dû.
Napoléon est toujours vivant à Elbe, même si les festivités sont encore réduites en raison de la pandémie. L'année du bicentenaire de sa mort y est célébrée comme il se doit, avec messe solennelle et lecture de son acte de décès et reconstitution historique avec figurants en costume. Et si les touristes ne sont pas encore revenus sur l'île, le souvenir de l'empereur, lui, n'a jamais quitté les lieux de son exil.
Un bel mattino serenella giunse all'Elba, credendo di ritrovare Napoleone.
À l'île d'Elbe, l'héritage toujours vivant de Napoléon, un grand reportage d'Éric Sénanque, réalisation Eva Piedel.
Triste e delusa penso di ripartire, poi vide il sole e il mar coi verdi monti. Vide le spiagge dorate, i bei tramonti. Decise allora di non più ripartire. All'Elba non c'è più Napoleone, ma ci son sempre i vecchi suoi sentieri. Nella sua reggia leggiano i pensieri che un giorno il mondo fecero tremar. All'Elba non c'è più Napoleone, ma ci son mille cose da vedere. Mare azzurro, i monti e le scogliere, un paradiso fatto per sognare, serenella rapita dal colore di quel mare, alle nebbie del nord lassù più non vorrebbe tornare. Poi alla sera all'Elba s'addormenta, l'azzurro mare canta ninna nanna, spunta la luna e dice a serenella, ma che t'importa di Napoleone? Ma che t'importa di Napoli?